Bienvenue dans ce deuxième numéro d'Alter Echo, au micro Olivier, et la technique est assurée par Pete. Comme vous le savez depuis la semaine dernière, Alter Echo est une émission qui porte un regard différent sur l'actualité et les médias. Alter Echo, c'est donc le mercredi soir à 22h, mais c'est aussi rediffusé le vendredi après-midi à 14h, toujours sur Radio Campus. Et puis vous pouvez aussi retrouver l'émission sur Internet. L'adresse du site, c'est www.multimania.com/alterecho. Alter Echo, c'est en un mot, et ça alter Echo avec CH et non Alter Ego. Vous y trouverez les archives, bien maigres pour l'instant, les playlists des émissions, ainsi que les textes et les sons de l'émission de la semaine, et puis un lien pour écouter l'émission dans son intégralité en reel audio. Aucune excuse pour rater les vérités majeures qui sont assénées toutes les semaines pendant une heure. Cette semaine, l'actualité est extrêmement chargée. Il y a d'abord le gag de la semaine. Lech Walesa a obtenu moins d'1% au présidentiel en Pologne. Champagne. Pour le reste, entre la grève des Tech Wallons, la passation de pouvoir au Grand-Duché de Luxembourg et d'autres sujets captivants, on ne sait plus où donner de la tête. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne parlerons d'aucun de ces sujets-là. Souvenez-vous, la semaine dernière, toute l'émission parlait des événements qui ont entouré à Prague le sommet du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cette semaine, ça a pété pas très loin de là, à Belgrade. Des manifs mouvementés, beaucoup de gens dans les rues, pas mal de dégâts, une petite ambiance contestataire, bref, plein de points communs avec Prague, et pourtant, nos médias n'ont pas perçu les deux événements de la même façon. Bien entendu, il y a d'énormes différences. À Belgrade, les manifestations étaient dirigées contre le régime local. Les manifestants étaient beaucoup plus nombreux aussi. Vous avez d'ailleurs peut-être remarqué que dans ces cas-là, les médias adorent se gargariser de formules comme « tout un peuple dans la rue », etc. mais il y a eu aussi beaucoup plus de dégâts. À Belgrade, le peuple tout entier, comme un seul homme, a tout de même foutu le feu au bâtiment de la télévision, saccagé et incendié le Parlement, parmi d'autres réjouissances tout aussi réchauffantes. Il y a eu aussi pas mal de bagarres avec les policiers anti-émeute, qui ont très vite compris cependant qu'il valait mieux qu'ils retournent leur veste. À Prague, les manifestants s'étaient contentés de casser des vitrines et de s'empoigner violemment pour certains avec les forces de l'ordre, ça avait suffi pour qu'on les traite d'anarchistes, insulte suprême, et que la RTBF diffuse des images de violence au lieu de se concentrer sur les enjeux de la semaine. À Belgrade, rien de tout ça et le contraste est particulièrement frappant. Le gouvernement belge a adressé ses félicitations à la population serbe pour la façon digne et non violente avec laquelle elle a manifesté, et le soir salue l'accomplissement pacifique du changement. La palme revient au journal télévisé de la RTBF, je cite: Un parlement, une télévision et une centrale de police sont encore en feu, une dizaine de voitures de police ont été incendiées, les pompiers n'ont pu que limiter les dégâts, les manifestants n'ont pas quitté la rue depuis ce matin, pour eux, la fête est à son comble. Et plus loin, les abords du parlement ont pris des allures de Woodstock. Donc tout brûle, mais c'est la fête, mieux, c'est Woodstock. Après les commentaires sur Prague, ça fait tout de même un peu sourire. La libre Belgique plus prudente parle d'une insurrection sans bain de sang, ce qui paraît correct. Bien entendu, le changement de pouvoir en Serbie aurait pu être beaucoup plus violent et on se réjouit du fait qu'une guerre civile ait pu être évitée. Seulement, on constate que lorsque des mouvements populaires contestent ceux qui confisquent la démocratie, la presse utilise deux poids et deux mesures. Lorsque ce sont de gentils confisqueurs de démocratie qui sont ébranlés, comme le FMI ou la Banque mondiale à Prague, le mouvement est forcément violent. Lorsque ce sont des méchants qui basculent, comme Milosevic, on salue la non-violence, même s'il y a plus de dégâts que dans l'autre cas. Mais par rapport aux autres dérapages de la presse, celui-là est bien mineur et somme toute pas dramatique. Autre détail de terminologie, comment parle-t-on du régime de Milosevic? Sur un point, tout le monde est d'accord, à partir de maintenant, la Serbie vit en démocratie, ce qui reste tout de même à prouver. Sous Milosevic, les avis divergent un peu. Pour le soir, pas de doute, ce qui vient de vaciller, c'était la dernière dictature communiste. Dans un article intitulé « La chute irréversible du dernier des dominos », pardon, Paul Mathil estime que le régime de Milosevic était une sorte d'excroissance, de métastase du communisme, la dernière dictature aux racines communistes en Europe. Alors je ne sais pas si j'ai bien lu mes manuels d'histoire, mais pour moi, les dictatures communistes sont caractérisées par certains agréments indispensables. Pour commencer, un parti unique et en corollaire, l'absence d'opposition parlementaire ou du moins officielle. J'ai peut-être raté une virgule quelque part, mais à mon sens, les grandes villes de Serbie sont dirigées par l'opposition à Milosevic depuis un bon bout de temps. Deuxièmement, dans une dictature communiste, il y a une économie planifiée et centralisée. Enfin, il m'avait semblé que le communisme était empreint d'internationalisme. Donc, question, Milosevic était-il un dictateur communiste? La libre Belgique, une fois de plus, est beaucoup plus mesurée et plus exacte. Bien sûr, Milosevic y est qualifié une ou deux fois de dictateur ou de tyran, mais ce n'est pas le fond du propos. La nature du régime est relativement bien expliquée au fil des articles. Pour la libre Belgique, on a assisté à la fin de 13 ans de régime fort, où se sont mêlés nationalisme et néocommunisme, et qui comptait sur l'exercice opaque du pouvoir pour dissuader tout contestataire. Plus encore qu'un communiste et un nationaliste, la libre Belgique soupçonne Milosevic d'être un opportuniste avant tout. À vouloir faire semblant de jouer à la démocratie, écrit Geneviève Delaunois, Slobodan Milosevic s'est finalement brûlé les ailes. Question économie, c'est aussi dans la Libre qu'on apprend que depuis 1978, la Yougoslavie titiste avait en fait fourni à la Chine, je cite, l'exemple d'un communisme flirtant avec le capitalisme, d'un État socialiste ouvert au monde occidental. Je me demande si le soir qualifie encore souvent la Chine, justement, de dictature communiste. Pour la Serbie de Milosevic, en tout cas, il n'hésite pas. Cela dit, chers auditeurs, n'allez surtout, surtout pas me soupçonner de sympathie pour cet affreux Jojo de Milosevic. Il s'agit bel et bien d'un criminel de guerre de la pire espèce, et il est évident que je ne lui confierai même pas ma belle-mère. Mais ça ne justifie pas, à mon sens, que les commentateurs perdent les pédales.
Yeah.
Et pourquoi justement ces commentateurs perdent-ils les pédales quand il s'agit de Milosevic? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit, sinon de faire oublier les bombardements par l'OTAN, en tout cas de les justifier une fois de plus a posteriori, et c'est bien nécessaire. Parce que si Milosevic est bien un criminel de guerre, cela vaut tout aussi bien pour l'OTAN, dont le comportement a été écœurant d'un bout à l'autre. Ça a commencé par les négociations à Rambouillet, où on a acculé Milosevic à la guerre, tout en faisant semblant de rechercher la paix avec acharnement. Ça a continué ensuite dans le choix des cibles en Serbie, souvent, très souvent civiles, et également dans le choix des armes, notamment des missiles à l'uranium appauvri. On pourrait en dire très long sur les crimes de l'OTAN, mais il faudrait des jours entiers. De toute façon, d'autres s'y sont consacrés. Et si ça vous intéresse, j'ai deux livres à vous conseiller à ce sujet. Le premier est de Noam Chomsky et il s'appelle Le nouvel humanisme militaire, leçon du Kosovo. Le second se concentre plus encore sur le rôle des médias dans cette affaire. Il porte un titre explicite, L'opinion, ça se travaille, et il est signé Serge Halimi et Dominique Vidal du Monde diplomatique. Tout ce que vous lirez là sur les méfaits de l'OTAN, vous ne le lirez pas dans la presse dominante. Tout cela n'est en effet apparu au grand jour qu'après coup, quand la meute des journalistes était déjà en train de déchiqueter un autre morceau. Ce qui n'apparaît pas dans le feu des projecteurs ne s'inscrit pas dans la mémoire médiatique, on l'a encore amèrement constaté cette semaine. Le week-end dernier, dans un édito en première page du Soir, ce qui est un fait rare en soi, Pierre Lefebvre écrit quelques passages particulièrement détestables. Je cite: L'Europe, et avec elle cette communauté internationale gardienne de l'harmonie entre les peuples, ne peuvent davantage se satisfaire de cette porte qui se referme. Il leur faut maintenant aider ce pays ruiné, meurtri et isolé à garder le cap, à se reconstruire et à retrouver sa place dans le cœur des démocraties européennes. Et ça continue plus loin. On sait ce qu'il en a coûté de ne pas oser la guerre en Bosnie ou de l'oser mal au Kosovo. On ne peut laisser la révolution d'aujourd'hui orpheline. Il faut maintenant oser l'avenir de la Serbie et y mettre le prix. Je résume, la communauté internationale est la gardienne de l'harmonie entre les peuples et on a mal osé la guerre au Kosovo. Mal osé la guerre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oser à mauvais escient ou pas oser assez? Nous laisserons à Pierre Lefebvre le bénéfice du doute, mais le contexte est en tout cas douteux. Ce qui choque surtout, c'est qu'il appelle la communauté internationale à aider ce pays ruiné et meurtri. Milosevic n'y est évidemment pas pour rien, mais ce qui a surtout ruiné et meurtri ce pauvre pays récemment, ce sont les violents bombardements par cette même communauté internationale, pourtant gardienne de l'harmonie entre les peuples. C'est là aussi que cet édito illustre pour la énième fois un scénario maintes fois éprouvé. On bombarde en prenant bien soin de tout casser, on vire le méchant dirigeant, on fraternise avec le gentil peuple opprimé et puis surtout, surtout, on entame la reconstruction. Mot magique, car entouré de petits S barrés d'un trait vertical, si vous voyez ce que je veux dire. La reconstruction, c'est tout l'intérêt des guerres comme celle-là. Le mécanisme est simple, c'est celui de la socialisation des coûts et de la privatisation des bénéfices ou des profits. On y assiste lors des guerres, mais aussi en dehors, comme par exemple lors de l'Euro 2000 ou lorsque l'État renfloue une banque, par exemple. Dans le cas de la guerre, voilà comment ça se passe. D'abord, il y a la guerre. Ça coûte des sous à la collectivité et même des tonnes de sous, dont une bonne partie se retrouve dans les poches des marchands d'armes qui ont évidemment pris soin de convaincre les décideurs de la nécessité de la guerre. Donc, on détruit un maximum. Ensuite, c'est la paix et la Serbie, dans ce cas-ci, revient un peu plus tard dans le giron de ce qu'on appelle les nations civilisées. Là, il faut reconstruire. Soit on fournit des crédits au pays qu'il faut reconstruire, auquel cas, c'est à lui, en fin de compte, de payer sa reconstruction. donations. Soit ce sont les pays riches qui font carrément de généreux dons, et dans ce cas-là, ce sont les contribuables de ces pays riches qui payent l'addition. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, ce sont les entrepreneurs des pays riches qui voient leurs actions monter en flèche. Bouygues, notamment, est un spécialiste des jutemarchés de la reconstruction, mais il n'est évidemment pas seul. À chaque étape, c'est une communauté qui paye et des individus qui s'en mettent plein les poches. Mais vous me direz, et le rôle de la presse dans tout ça? Elle en a un, rassurez-vous, et elle le joue spontanément parce qu'elle le trouve beau et noble. Son rôle consiste à faire oublier la guerre et à appeler à la reconstruction. On a pu lire pas mal d'appels à la reconstruction rapide et massive de la Serbie ces jours-ci. Dans la Libre Belgique, c'est particulièrement frappant. Voici la légende qu'elle place à côté d'une photo où l'on voit un Serbe devant le fameux pont détruit de Novi Sad, qui baigne lamentablement dans la rivière. L'Union européenne promet de relever financièrement la Yougoslavie, notamment en participant à la reconstruction des infrastructures détruites par les bombardements de l'OTAN. On remarquera que dans cette phrase, ce sont à peu près les mêmes pays qui soufflent le chaud à travers l'Union européenne et le froid à travers l'OTAN. On trouve une division sémantique très semblable dans Le Soir, dans un édito de Christophe Lanfalussy. Il y a plus d'un an, les pays européens alliés aux États-Unis bombardaient la Serbie afin d'extirper l'armée yougoslave du Kosovo. Aujourd'hui, l'heure est venue d'aider le peuple serbe. Là, vous remarquez que c'est l'autre bord qu'on divise. On a bombardé la Serbie et on aide le peuple serbe. Toutes ces astuces sont bien maigres pour masquer l'évidence. Les pays de l'OTAN cassent ce qu'ils peuvent pour reconstruire plus à leur goût. Et en plus, ça fait tourner l'économie, tout bénéfice. Mais attention, les journaux ne sont pas dupes. Ces méchants Serbes d'hier sont peut-être devenus gentils, mais ils ne feront tout de même pas l'économie d'un bon petit examen de conscience. Pour Pierre Lefebvre, ce pays devra regarder son passé en face, accepter la vérité de son ambiguë complicité avec la pensée et les meurtres de Milosevic. Paul-Mathilde renchérit, toujours dans Le Soir, en rappelant que Milosevic n'était pas seul, ni au Kosovo, ni à Srebrenica, ni à Belgrade. Il ne doit pas être le seul à payer la note. La Libre Belgique, toujours un peu plus modérée, estime que les Serbes sont prêts, dans leur majorité, à reconnaître leurs responsabilités pour avoir porté Milosevic au pouvoir et entraîné de cette façon les Balkans dans la guerre. À mon avis, et au risque de vous surprendre, ils ont tout à fait raison. Seulement que les pays de l'OTAN balayent d'abord devant leurs propres portes, à commencer par leurs éditorialistes. Je n'en ai trouvé qu'un seul pour le faire cette semaine, même si je n'ai évidemment pas pu lire toute la presse. Il s'agit de Laurent Arnaud, qui signe dans le journal du samedi un édito très équilibré, dont je vous livre quelques extraits pour terminer. L'Occident doit se garder de crier victoire trop vite et trop fort. D'abord parce que ce n'est pas sa victoire, mais celle d'un peuple qui, dans la rue, risque bien plus que les improbables héros d'une guerre presse-bouton. Arnaud se rappelle ensuite à quel point cette guerre a pu être sale et à quel point, de l'aveu même de l'armée britannique, les armes dites intelligentes s'étaient en réalité montrées stupides. Il rappelle aussi l'utilisation des armes à l'uranium appauvri. À propos de la propreté de cette guerre, il indique très justement que les mensonges de l'OTAN à cet égard s'effilochent de plus en plus, mais dans l'indifférence générale. Pour terminer, il répond de façon cinglante à ces éditorialistes aveugles qui invitent le peuple serbe à un examen de conscience. Les Yougoslaves ne seront pas les seuls à devoir se livrer à une douloureuse introspection, écrit-il, car lorsqu'il s'agira de traduire Milosevic en jugement, ce qui est indispensable, quoi qu'en diront peut-être ses compatriotes au nom d'une future réconciliation nationale, on ne pourra faire l'économie de juger avec la même intransigeance les erreurs de la communauté internationale, et ce, depuis les origines lointaines du conflit, au moment de l'explosion de l'ex-Yougoslavie de Tito, jusqu'aux violations du droit de la guerre par les forces de l'OTAN, en passant par la longue irresponsabilité qui a présidé aux menées des puissances occidentales et russes dans la région. Le cynisme des États, lorsqu'il est collectif, conclut-il, sera-t-il plus facile à vaincre que Milosevic? Le doute est hélas permis.
In the sky, when your insight suit saw that the Institute of Mental Health was burning, you stood up on the corner where the sun. Across the street, beneath the shackles of misfit, as the Institute was burning, flames were roaring, singing like a thunderstorm. Smoke was pouring straight up to the sky. Windows smashing, gothic doors and lintels fall. Timbers crashing, and we both know why. nobody else came by to stare. You see, they didn't really care. We got all the fire brigade. None of them have been paid. And so the institute is burning. Out the city, people say it isn't pretty. Everyone agrees, everyone is glad. Dr. Brains celebrate on everyone. Waves their chains, it's a pity they're all mad. The Institute of Mental Health spontaneously killed itself. Ashes to ashes and dust to dust. The chains began to rust as the institute was
balayé devant sa propre porte. Voilà une chose que les puissants font rarement. Pourtant, même aux États-Unis, certains s'en occupent. J'ai récemment trouvé sur le site Indie Media Belgique, dont vous trouverez l'adresse sur le site d'Alter Echo, un texte envoyé par une grosse organisation de critique des médias américaines. Il s'agit de FAIR, F-A-I-R, une organisation qui se bat pour l'honnêteté et l'exactitude dans les médias américains. J'ai traduit et adapté ce texte qui offre des parallèles troublants entre les élections yougoslaves qui viennent d'avoir lieu et les présidentielles américaines qui auront lieu en novembre. Croyez-moi, il y a matière à réflexion, écoutez plutôt. Impatient d'écarter Milosevic du pouvoir, le gouvernement américain a fait parvenir des millions de dollars à des projets médias en Yougoslavie. Il y a pas mal d'hypocrisie dans l'air et on pourrait souhaiter un tantinet de réciprocité. Le Washington Post notait récemment « Les accusations d'achat d'influence par la Chine lors des élections présidentielles américaines de 1996 ont suscité à Washington une tempête politique qui n'est toujours pas complètement terminée. Cependant, dans une certaine mesure, cet épisode n'est rien à côté de l'interférence politique des États-Unis en Serbie. » Fin de citation. Pour l'année fiscale qui vient de se terminer, le montant annoncé des aides aux ennemis de Milosevic s'élevait à 25 millions de dollars. Pour l'année qui suit, ce budget s'élève à 41,5 millions de dollars, sans compter toutes les aides non officielles ou secrètes. On nous dit que cet argent des contribuables américains est nécessaire à cause des obstacles iniques qui empêchent les candidats de l'opposition de communiquer avec le public yougoslave. Le Washington Post rapporte que la majorité de ces montants va à des programmes de la société civile, comme par exemple ceux qui soutiennent les médias indépendants. Les officiels américains déclarent que tout ce qu'ils veulent faire, c'est équilibrer les chances. Fin de citation. Et si les autres nations adoptaient une approche similaire pour équilibrer les chances des candidats aux États-Unis ? Après tout, les campagnes sont fortement biaisées par l'accès aux gros capitaux et aux médias de masse. Pour ceux qui ne portent ni œillères ni lunettes roses, la nécessité de restaurer l'équilibre des chances pour les candidats américains devrait être évidente. Les candidats qui s'opposent réellement à l'establishment se retrouvent face à un déséquilibre immense du pouvoir médiatique à partir du moment où ils s'attaquent au bastion d'influence de Wall Street. Si l'on veut instaurer la démocratie dans les faits autant que dans les discours, c'est le moment idéal pour exiger des changements fondamentaux. Pour commencer, aux États-Unis, les médias indépendants auraient grandement besoin d'aide en ces dernières semaines de la campagne présidentielle. On pourrait commencer par injecter rapidement de l'argent dans les magazines politiques et les radios communautaires non liées aux intérêts financiers, souvent trop petits et en manque de fonds. Il faudrait au minimum plusieurs millions de dollars. En octobre, les grandes chaînes de télévision diffuseront en prime time une série de débats entre George Bush Jr. et Al Gore, juste deux. Ces débats sont financés par des sociétés comme Anheuser-Busch, une marque de bière qui paye 550 000 dollars pour sponsoriser les rencontres historiques entre Gore et Bush. Peut-être existe-t-il quelque part au monde un gouvernement, ou peut-être une brasserie étrangère, qui pourrait dépenser un demi-million de dollars pour une série indépendante de débats télévisés qui inclurait Ralph Nader, le candidat du Parti vert dont nous reparlerons tout à l'heure. Les grands politiciens et patrons de presse américains ne seraient sans doute pas très contents de ce genre d'intervention. Discrètement encouragé par les grands médias, le gouvernement a surtout été très fort pour exiger des autres nations qu'elles fassent comme il dit et non comme il fait lui-même. Ces dernières semaines, l'intervention politique en Yougoslavie a été on ne peut plus flagrante. D'après le New York Times, l'argent de Washington et de ses alliés européens est passé aux adversaires de Milosevic, parfois en aide directe, parfois en aide indirecte, comme des ordinateurs et du matériel de radiodiffusion, et parfois dans des valises bourrées de billets passées en douce dans le pays. Pour rééquilibrer les distorsions médiatiques aux États-Unis, il faudrait réfléchir à la façon de générer un afflux d'argent comparable en faveur de nos médias indépendants. Les ordinateurs manquent souvent et on a toujours besoin de matériel de radiodiffusion. Et bien entendu, les valises bourrées de billets sont toujours les bienvenues. Confrontés aux pénuries qui ont causé la fermeture d'innombrables périodiques, de nombreux rédacteurs en chef de publications indépendantes ne savent que trop bien que la liberté de la presse est limitée, d'un point de vue pratique, par l'ampleur des moyens financiers. Les grands groupes médias peuvent se vanter de bénéfices énormes, tandis que les petits médias se battent pour leur survie. Dans les faits, la plus grande partie de la censure dans notre société ne vient pas de l'hostilité du gouvernement, mais de la pression financière. Dans un article du 20 septembre écrit depuis Belgrade, le New York Times décrivait une situation toute différente. D'après un coopérant américain bien informé, les officiels des organismes d'aide américains ont dit aux journalistes et aux médias indépendants de ne pas regarder à la dépense parce que l'argent n'allait pas cesser d'affluer. Fin de citation. Le même journal expliquait que pour certains candidats yougoslaves également, les soutiens ont été généreux. Peu d'efforts sont faits pour dissimuler le fait que c'est de l'argent occidental qui a payé la majorité des sondages, de la publicité, des publications et des autres frais de la campagne d'opposition. Certainement une façon de donner aux leaders de l'opposition une meilleure chance de faire passer leur message dans un système quasi autoritaire où la télévision en particulier est fermement aux mains du gouvernement, écrit le New York Times. Aux États-Unis, la télévision n'est pas fermement aux mains du gouvernement, elle est fermement aux mains des grandes sociétés. Vous verrez peut-être Ralph Nader à la télévision de temps en temps, mais comparé à Bush et Gore, c'est un étranger sur les ondes. Les gouvernants des capitales étrangères qui veulent suivre l'exemple de Washington pourraient envisager d'envoyer quelques millions de dollars à Nader, et vite.
Lies, 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 lies. On the motel TV, I dig the evangelist. He tell you all about that, and then he tell you all about this. He's preaching up a storm by the Sea of Galilee. He's mixing up the truth with something funny. I start to see he's telling lies, 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 lies. Oh, I never had this problem with nobody in government. I guess I always figured they never mean what they meant. And God help us all not to be so stone surprised when we wake up in the stars with the skies in our eyes. If we keep telling lies, 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 lies.
Si vous ne comprenez pas très bien l'enjeu du texte qui a précédé la chanson, rassurez-vous, c'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas bien informé. Ce n'est pas parce que vous vous informez mal, c'est plutôt qu'on vous informe mal. En fait, voilà ce qui se passe. Les États-Unis, grands donneurs de leçons en matière de démocratie, ne sont pas une vraie démocratie, mais plutôt un système à deux partis uniques. Or, des républicains ou des démocrates, point de salut. À tel point qu'à l'étranger, et sans doute souvent même aux États-Unis, on a l'impression qu'il n'y a que deux candidats à l'élection présidentielle, à savoir Al Gore et George Bush. Or, il y en a plus, au moins deux de plus. Il y a Pat Buchanan, un ancien journaliste de CNN d'extrême droite, qui se présente pour le parti de la réforme. Rappelez-vous, c'était le parti de Ross Perot, le troisième candidat d'il y a quelques années. Et puis il y a aussi Ralph Nader du Green Party, les écolos de là-bas. Vous ne saviez sans doute pas non plus qu'il y avait un parti écolo en Amérique, mais ce n'est pas une honte puisqu'on ne vous l'avait jamais dit. Ce qu'on ne vous a pas dit non plus, c'est qu'une grève d'une semaine des ouvriers, des étudiants et des professeurs vient de se terminer hier aux États-Unis. Plusieurs manifestations ont également eu lieu. Toute cette agitation avait pour but de faire admettre Ralph Nader au débat des candidats à la présidence. Pourquoi est-ce si important? Tout simplement pour briser le système très verrouillé des deux partis uniques. Ces deux partis ont la particularité de s'opposer, alors même qu'ils ont plus de points communs que de différences. Tous deux sont pour la peine de mort, pour une armée forte, pour faire semblant de renforcer la sécurité sociale tout en la démantelant, etc., etc. Il n'y a guère que sur l'avortement qu'ils s'opposent réellement. Pour une fois qu'il y a un candidat valable qui propose des choses à la fois radicales et sensées, le danger est évidemment grand. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la participation de Ross Perot au débat présidentiel. Il était arrivé là parce qu'il avait beaucoup d'argent pour financer sa campagne et parce qu'il ne représentait aucun danger pour les valeurs établies. Comme il y a aujourd'hui un candidat potentiellement dangereux, Ralph Nader, on a renforcé les critères de participation au débat pour l'en écarter. Mais qui donc détermine ces critères? C'est là qu'on voit toute la perversité insidieuse du système. Les débats présidentiels sont organisés par la bien nommée Commission des débats présidentiels, qui se dit impartiale et indépendante. Seulement, elle est composée de 6 membres, dont 3 appartiennent au Parti républicain et 3 au Parti démocrate. Dans ces conditions, pas étonnant qu'elle adapte les critères de participation au débat. Actuellement, il faut 15% des intentions de vote dans les sondages pour pouvoir participer. Nader ne les a pas puisqu'il n'a pas les fonds pour exposer préalablement ses positions au public. Pourtant, selon un sondage qui n'est évidemment pas pris en compte par la Commission, plus de la moitié des électeurs sont pour la participation de Nader au débat télévisé, puisqu'ils aimeraient sans doute bien savoir ce qu'il propose. Mais la commission des débats en a décidé autrement pour protéger les candidats des partis uniques des intrus indésirables. Et indésirable, Ralph Nader l'est certainement. Même si on entend très peu parler de lui, c'est loin d'être un inconnu. Il est célèbre aux États-Unis depuis des décennies en tant que défenseur des consommateurs dans le sens très large du terme. Il a commencé en tant que journaliste en dénonçant entre autres le manque total de sécurité des voitures américaines. Il a notamment obligé toute l'industrie automobile à revoir de façon radicale la sécurité de ses véhicules, gagnant au passage un grand procès en diffamation contre General Motors. Il a ensuite fondé Public Citizen, une organisation citoyenne qui comportait plusieurs agences en s'occupant notamment d'observer et de critiquer les politiciens, les grosses sociétés, le commerce mondial, etc., tout en proposant des solutions plus justes en matière sociale, énergétique ou judiciaire. En matière de citoyenneté, on peut donc dire qu'il a fait ses preuves. Son programme pour l'élection présidentielle est radical sans être du tout extrémiste. Ainsi, il propose un meilleur contrôle sur les armes et non pas leur interdiction. Il propose une réduction du budget de l'armée de 20%. Il propose l'arrêt de la course aux armements contre nous-mêmes, comme il dit, ainsi que l'abolition du système des pots de vin légalisés, c'est-à-dire du financement des campagnes électorales par les entreprises. Ce ne sont là que quelques-uns des points de son programme, mais ça suffit pour comprendre qu'il ne soit pas toléré dans les débats dits démocratiques. De l'avis de la plupart des observateurs, il ne mettrait pas 5 minutes à ridiculiser les candidats établis. Et donc le système américain laisse jouer en toute quiétude le vieux cercle vicieux des élections. Pas de milliards, pas d'audience, pas d'audience, pas de débat, pas de débat, pas d'audience. Très simple et redoutablement efficace. Bien entendu, notre chère presse ne vous a pas mis au courant de tout ce qui se joue un peu à l'écart des projecteurs. D'après son site web, la RTBF n'a jamais prononcé le nom de Nader dans son JT. Le Soir lui a consacré un seul article au ton très léger pour dire qu'il était en conflit avec Mastercard pour avoir parodié une de leurs pubs. C'est tout. Mieux que ça, la semaine dernière, à la veille du premier débat entre Gore et Bush, la Libre Belgique consacrait un article au débat alors qu'il devait encore avoir lieu. L'occasion idéale pour parler de ce qui se trame en coulisses, mais non, Philippe Paquet s'est contenté de parler des anecdotes qui ont émaillé les précédents débats et de peser les chances de l'un et de l'autre. Pas un mot sur le caractère totalement antidémocratique de la comédie des débats et de toute cette élection d'ailleurs. À l'heure où je vous parle, les deux protagonistes, tous deux fils de grands politiciens et qui portent tous les deux le nom et le prénom de leur père, j'ai nommé George Bush et Al Gore, sont en train de fignoler leur stratégie pour le deuxième de ces trois débats qui commence dans quelques heures. Vous lirez donc dans votre presse du vendredi des analyses insipides sur le veston et la cravate qu'ils avaient choisi et sur les petites phrases assassines qu'ils se sont décochées. La presse désignera même un vainqueur, celui qui aura le plus convaincu qu'il est un beau-fils idéal. Mais cessons donc de faire du mauvais esprit, messieurs, que le meilleur gagne. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur les émeutes dans les territoires occupés par Israël. Seulement, à part les faits, la presse n'en dit pas grand-chose, et en tout cas pas grand-chose de significatif. On se risque à des analyses prudentes sans jamais toucher le fond du sujet. La plupart des commentaires renvoient dos à dos, israéliens et palestiniens, et refusent de rappeler quelques faits élémentaires. Notamment le fait qu'il existe depuis plusieurs décennies une résolution des Nations Unies, dont personne ne conteste pourtant ni la légitimité ni l'autorité, résolution qui exige le retrait d'Israël dans ses frontières d'avant 1967. Le fait aussi que dans cette affaire, toutes les armes lourdes et toutes les richesses sont concentrées dans un camp, l'autre étant dénué des ressources les plus élémentaires. Le fait qu'Israël pratique vis-à-vis des Palestiniens une politique qui rappelle en de nombreux points celle de l'Afrique du Sud vis-à-vis des Noirs avant l'avènement de Mandela, une politique qui est tout aussi fortement ancrée dans l'ethnicité. Le fait que pour les émeutes actuelles, la provocation, l'étincelle est venue du côté israélien, qui pourrait dès lors au moins adopter un profil bas. Le fait enfin que les morts tombent presque tous du même côté, et pour cause, des pierres et des cocktails Molotov d'un côté face à des chars et des hélicoptères de l'autre. Israël s'indigne de l'enlèvement de 3 de ses soldats, alors que son armée tire à balles réelles sur des gamins. Un article m'a frappé dans ce conflit cette semaine dans La Libre Belgique. Il s'intitule Dérapage verbal dans les capitales arabes et il est très instructif. La Libre cite l'Egyptian Mail qui tient effectivement des propos très limites, presque négationnistes sur les juifs. Ce qui hérisse surtout La Libre, c'est que ce journal, je cite, n'hésite pas à comparer Sharon, 3 points de suspension, à Hitler. Bien évidemment, la comparaison est totalement excessive et même ridicule, mais je ne me souviens pas avoir entendu tiquer La Libre de cette façon lorsque les états-majors occidentaux et leur presse comparaient Milosevic à Hitler. Pourtant, il y en a deux qu'on pourrait comparer avec des arguments déjà plus sensés, et ce sont justement Milosevic et Sharon. Milosevic, c'est récent, donc on se souvient, il est directement responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes. Sharon, c'est déjà plus ancien, mais les mauvais esprits se souviennent néanmoins qu'il fut responsable de la mort de plusieurs milliers de réfugiés palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila, dans le sud du Liban, pour ne citer que ce seul méfait. Avant de s'indigner des comparaisons hasardeuses, voire scandaleuses, il vaut mieux d'abord, vous l'avez deviné, balayer devant sa propre porte. Pas grand-chose à dire non plus sur le grand sujet belge de la semaine, les élections communales. Elles ont malheureusement eu en Flandre le résultat que l'on connaît et globalement, la presse a correctement analysé, à mon sens, cette progression malgré tout inattendue de l'extrême droite. Quand les choses sont bien faites, il faut pouvoir le dire aussi, et c'est de bon cœur. Évidemment, la presse francophone a beau jeu de critiquer son pendant flamand pour avoir offert un forum au Vlaams Blok et cette critique n'est pas injustifiée. Simplement, j'aurais bien voulu voir la réaction de cette même presse francophone confrontée à des scores comparables des fascistes francophones. Personne en effet n'imagine que les scores ridicules des nazis francophones sont à mettre au crédit de l'attitude vaillante de la presse francophone. De plus, par rapport à la presse flamande, les médias francophones perdent la confrontation dans tous les autres domaines, donc ces derniers feraient bien de faire preuve d'un rien d'humilité. À part ça, c'est évident, et la presse l'a dit, il y a bel et bien une haïdérisation de la Flandre. Les électeurs du Bloc se recrutent désormais également dans une certaine bourgeoisie frileuse et égoïste, et de ce côté-là, les problèmes sont encore beaucoup plus difficiles à résoudre que dans l'électorat populaire, puisque ce sont les mentalités qui sont pourries et non les conditions matérielles sur le terrain. Dans un édito du soir, Bénédicte Vaas estime qu'il faudrait écouter, cette fois, les spécialistes universitaires de l'extrême droite qui déconseillent de mettre à l'agenda politique les thèmes dont les fascistes font leur chou gras. C'est très bien, mais ne faudrait-il pas aller plus loin encore et au contraire les mettre précisément à l'agenda en prenant sur ces thèmes le contre-pied radical du Vlaams Blok, démontrer qu'il y a plus de sentiments d'insécurité que d'insécurité réelle, par exemple, prendre sur toutes les questions qui touchent aux étrangers et à la dignité des personnes des positions totalement opposées à celles des fascistes. Ce serait aussi l'occasion de forcer certains partis hésitants à jouer carte sur table, un peu pour ou tout à fait contre les idéologies puantes. On a compris que ce n'est pas en présentant des versions édulcorées de ces idéologies qu'on engrange des voix. Il serait temps de comprendre que d'autres recettes s'imposent. En tout cas, les journaux francophones demandent effectivement des mesures fortes et ils ont raison. Un seul problème, souligné par certains politiciens qui ont été clairs sur ces questions depuis toujours, toutes les grandes mesures qu'on prendra désormais seront ressenties, et à juste titre, comme des aménagements des règles démocratiques pour contrer un seul parti. Pour les partis qui s'y convertiraient sur le tard, la suppression de l'obligation de vote ou l'octroi du droit de vote aux étrangers ne serait que des recettes destinées à sauver leur peau et pas des politiques découlant d'une conviction profonde. C'est effectivement ennuyeux, mais qu'à cela ne tienne, sauvons la démocratie et on verra après.
Le skinhead est timide quand il est seul. Il regarde par la fenêtre et le soleil chiffonne sa gueule. Il a l'air d'une pauvre bête et voit les oiseaux qui s'envolent. Il a dans la tête une petite gangrène qui le désole. Et dans son rêve immense, il résonne la Walkyrie, la race des seigneurs, l'union de la Wallonie, avec un front si bas, les chiens des flamingants, avec de beaux soldats, faire mieux que les Allemands. Le skinhead est timide quand on lui parle de la guerre, ça clignote dans son cœur qui dit, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut être crédible, en élu de la nature, pour décréter nuisible ce qu'on dessine moins pur avec ses grandes mains. Il va forger le fer pour trancher les sarrasins et égorger leur père et la famille, la patrie et Dieu qui les modèle. La vraie image de l'homme est suce aux infidèles et sur sa peau il est, il y a la terre et le sol. Et dans son slip chargé, les ancêtres s'affolent et la vie circule comme les blés dans les champs. Et les peaux blancs s'enculent et font de beaux blancs enfants et la vie circule comme les blés tous s'en rend, et les beaux blancs s'enculent et font de beaux blancs enfants. Heureusement que le skinhead a des rêves impossibles et que les ignorants ont choisi les mêmes cibles. Le chien pisse dans les coins pour marquer son territoire. Le facho crame les miens pour écrire son histoire. Le chien pisse dans les coins pour marquer son territoire. Le facho crame les miens pour écrire son histoire. Heureusement que le skinhead est stupide et borné. Le ridicule le tue, mais l'État mouche son nez. Les partis bien gentils donnent le pain et le sel au repas des fachos qui veulent faire leur vaisselle. Les partis bien gentils donnent le pain et le sel au repas des fachos qui veulent faire leur vaisselle. Le skinhead est timide quand il est seul. Il regarde par la fenêtre et le soleil chiffonne sa gueule. Il a dans la tête une petite gangrène qui le désole. Il regarde par la fenêtre et voit les oiseaux qui s'envolent.
Le Canada Dry de l'info est né. C'est le journal du samedi qui l'annonçait en une ce week-end. Le Canada Dry de l'info, c'est Metro, le premier quotidien gratuit de Belgique. On vous l'a peut-être glissé entre les mains cette semaine dans un lieu public. C'est un petit journal avec beaucoup de photos et peu de textes. En gros, c'est une série de dépêches reprises presque telles quelles avec de grandes photos en couleur et le tout manque cruellement d'âme. Ce qui ne manque pas évidemment, ce sont les pubs. Bon, il n'y en a pas encore des masses, mais le but est d'arriver à 70% d'espace publicitaire avec quelques dépêches dans les petits trous qui subsisteront. 70% en effet. De toute façon, vous ne pensiez pas que c'était réellement gratuit. Beaucoup de gens s'indignent, mais finalement, Metro n'est-il pas l'aboutissement final de l'évolution que subit une partie de la presse ? De plus en plus de pubs, de moins en moins d'argent dépensé pour la partie rédactionnelle, des produits de plus en plus aseptisés, tout ça devait bien finir par accoucher de Metro. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si c'est Daniel Van Wielick, le rédacteur en chef de La Dernière Heure Les Sports, qui s'indigne dans le journal du samedi. À mon avis, il sent bien que la seule chose qui sépare son canard à lui de ce petit torchon gratuit, c'est le prix de vente. Du coup, il se met à flipper et il veut poursuivre les promoteurs de Metro en justice pour concurrence déloyale. Il avoue donc bel et bien être en concurrence avec Metro, même si pour lui, les deux journaux n'ont rien à voir, puisque selon lui, La Dernière Heure fait du journalisme d'investigation, de proximité et d'analyse, reste à en convaincre ses lecteurs. Les autres réactions sont tout aussi amusantes. Il y a celle d'un porte-parole de la STIB, qui est concernée puisque la STIB et la SNCB sont associées au projet. Si ces deux sociétés de transport acceptent que Metro soit distribué dans les gares, dit-il, il paraît évident que l'on ne peut aider de la sorte un journal qui aurait une tendance éthique, philosophique ou politique marquée. En d'autres termes, un journal qui véhicule des valeurs. Évidemment, c'est très personnel, mais pour moi, un journal constitué de 70% de publicité véhicule bel et bien des valeurs. Au-delà de celles qui sont contenues dans chaque pub individuelle, il y a surtout celle qui est transmise par la pub en général. Achetez et vous serez heureux. Il y a aussi l'indignation de l'AGJPB, l'Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique, qui annonce qu'elle n'attribuera pas de carte de journaliste aux collaborateurs de Metro, au motif qu'avec toute cette pub, ceux-ci ne pourront disposer de suffisamment d'indépendance dans leur couverture de l'information. Espérons de tout cœur pour les journalistes professionnels que leur association ne va pas tenir sa promesse et donc retirer leur carte à tous ceux qui manquent d'indépendance dans ses rangs. Sinon, la prochaine assemblée générale de l'AGJPB pourra sans problème avoir lieu dans une cabine téléphonique. Il est l'heure de rendre l'antenne, comme on dit à la radio, mais je ne vous lâcherai pas avant de vous avoir rappelé que cette petite heure de plaisir médiatique vous est offerte deux fois par semaine, le mercredi à 22h et le vendredi à 14h en rediffusion, que vous pouvez retrouver les playlists et les textes de l'émission sur le site internet, que vous trouverez soit en tapant dans la case adresse www.multimania.com/alterecho en un mot, soit en cliquant sur le lien de l'émission à partir du site de Radio Campus. Sur le site Alterecho, vous trouverez aussi un lien pour écouter l'émission complète en reel audio. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous, merci à Pete de s'être occupé des boutons et des CD, et à la semaine prochaine.
Radio Campus, la seule radio qui s'appelle comme ça.